Pieli, qui est directeur de recherche au CNRS, directeur du CESDIP, et qui a écrit beaucoup d'ouvrages, mais notamment en 2008, un ouvrage qui s'intitule « La frénésie sécuritaire, retour à l'ordre et nouveau contrôle social ». J'ai simplement noté, ce qui n'est pas loin du titre de la conférence qu'il va nous donner, que dans ce livre, il disait « Le retour au discours sécuritaire, on peut craindre qu'il ne soit ni neutre, ni objectif, ni fondé ». Et il va nous expliquer pourquoi, sous le titre qu'il a donné, « Identifier, contenir et mettre à l'écart », le sous-titre étant précisément « Le retour du discours sécuritaire et de ses prétentions scientifiques ». Alors, je pense que dans le débat, il faudra qu'on revienne sur ce qui a été dit ce matin, sur la vision scientifique, la logique, la rationalité actuarielle aux États-Unis, qui pense que ce ne sont pas des prétentions, mais des réalités scientifiques. Il y aura sûrement débat tout à l'heure. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci à vous et aux co-organisateurs pour cette invitation. Nous allons donc faire très très rapidement un petit peu de sociologie politique, exercice relativement délicat puisque toutes ces questions sont politisées et médiatisées à l'extrême et de ce point de vue, le mois de mai 2009 qui vient de se couler l'a une fois de plus démontré, bien entendu à la veille d'une élection. Exercice délicat aussi car la pensée sécuritaire consistant fondamentalement en une négation du social, elle est aussi et du même coup une négation de l'intérêt même d'un savoir sur le social, en d'autres termes, une négation des sciences sociales. Faut-il s'étonner du fait que, par définition, du coup, les tenants de la pensée sécuritaire soient aussi ceux qui détestent le plus les milieux universitaires et scientifiques ? Non, évidemment, et ce sera ma seule allusion à nos luttes professionnelles en cours. Je vais donc aborder très rapidement, puisque vous m'avez demandé, Mme Delmas-Marty, de compenser l'indiscipline relative des deux précédents orateurs. En donc une vingtaine de minutes, je vais aborder beaucoup de questions, les survoler pour certaines d'entre elles. Je me permets donc de renvoyer au livre que vous avez eu la gentillesse de signaler, qui est un ouvrage collectif que j'ai coordonné et dans lequel les deux premiers chapitres ont été écrits par Christine Nazaire Jordanet, ici présent. Un tout petit point d'introduction pour tisser peut-être aussi quelques liens avec le débat de ce matin et quelques comparaisons avec le 19e siècle, pour signaler tout de même l'ancienneté du discours sécuritaire. Soyons simples, disons les choses, il y a des fonds de commerce à toutes les idéologies politiques. Du côté droit de l'échiquier politique, la question de la sécurité, l'idéologie de l'ordre, la lutte contre la subversion intérieure sont des thèmes qui sont le fonds de commerce des idéologies politiques et des discours politiques. Ajoutons que ce discours a, par définition, incessamment besoin de désigner des ennemis à combattre, par conséquent, ou traduit en termes juridiques, des figures de dangerosité. Du XIXe siècle à nos jours, il en a toujours trouvé au moins trois récurrentes, il y en a certainement d'autres, mais au moins trois, à savoir la figure du fou criminel, la figure de la bande de jeunes délinquants et la figure du terroriste. Les frontières entre les trois figures étant plus ou moins imperméables, d'ailleurs, selon les moments et les doctrines. Donc, dans cette histoire longue, que je situerai au moins de, disons, approximativement le deuxième tiers du XIXe siècle jusqu'à ce début du XXIe siècle, on pourrait chercher plusieurs points de ressemblance, sans vouloir non plus faire des anachronismes ou du présentisme, mais on pourrait en trouver quelques-uns, autour, bien entendu, de, contextualisons politiquement, la domination politique des forces de droite conservatrices, c'est évidemment un préalable. La domination intellectuelle également d'idéologies déterministes ciblant des individus anormaux ou des groupes de population inassimilables. On pourrait trouver également, me semble-t-il, de fortes connexions. La recherche politique d'alliés dans le monde scientifique pour développer et légitimer des techniques d'identification et de mise à l'écart. On trouve également un certain nombre de ressemblances. Également des politiques policières et pénales dominées par, voire résumées dans un objectif de maintien de l'ordre, on trouverait également beaucoup de comparaisons. Mais donc, mon propos s'arrête là, si c'était pour signaler en fin d'introduction, néanmoins que cette comparaison reçoit parfois quelques indices pour le moins saisissants. C'est ainsi qu'en en lisant le rapport 2005 de l'INSERM sur les troubles des conduites, on s'aperçoit que la première note de bas de page devant une référence scientifique indique la référence à Cesare Lombroso, l'homme criminel 1876. Le cœur de mon propos est donc plutôt ce retour contemporain du discours sécuritaire et sa domination écrasante jusqu'il y a peu, peut-être, puisque j'essaierai de terminer avec une note d'optimisme ou d'espoir, sur quelques résistances, oppositions, nuances qui se font jour, peut-être un petit peu plus, depuis quelques années. 5 points pour proposer cette, encore une fois, très rapide analyse de la tendance sécuritaire et sa domination actuelle. 5 points. Le premier pour dire que, et vous voyez qu'on va tout de suite plonger dans la difficulté qui est de tenter d'objectiver du subjectif, et du subjectif très politisé, le premier pour dire qu'à mon sens, la condition de ce succès est avant tout une transformation qui a eu lieu dans le champ politique. Dans le champ politique, à savoir la disparition de ce conflit fondamental et structurant, l'axe droite-gauche, disparition relative, on va dire, de ce conflit fondamental structurant les discours politiques, droite-gauche, structurant le débat politique. Lorsque les gens ne sont pas d'accord, ça a une conséquence majeure, c'est que ça crée du débat et ça oblige à argumenter les positions. Dès lors que les individus se mettent à dire avec tout un dégradé de nuances des choses qui n'ont plus de contradiction fondamentale, alors il ne faut pas s'étonner que dans le débat public, l'argumentation tente à disparaître. Et que le débat public devienne en réalité non plus une course où des individus courent dans des sens différents, mais une course où tout le monde va dans le même sens, avec des gens qui vont plus ou moins vite. Et il ne faut pas s'étonner de la conséquence qui est d'ouvrir une surenchère. Et que les positions, du coup, les plus extrêmes qui auraient été conçues et qualifiées comme telles il y a encore une quinzaine d'années, soient simplement aujourd'hui des positions qui vont un peu plus loin que d'autres, mais qui ne sont plus extrémistes. C'est une surenchère. Et ça me paraît un phénomène absolument majeur, d'où qu'il y a des influences au-delà du champ politique, dans le champ médiatique, bien entendu, je vais y revenir dans un instant, mais également plus largement dans le champ de l'expertise, dans l'univers intellectuel. Ça a eu des conséquences en cascade que je ne peux pas détailler ici, mais qu'on trouvera des éléments dans ce livre et dans quelques autres. Mais ça a eu des conséquences en cascade sur tous les acteurs du débat politique. Ajoutons même à cela les groupes professionnels, les lobbies, les organisations professionnelles qui se font le plus entendre dans ce domaine, etc. C'est un phénomène majeur qui s'est produit au cours des années 90, sans doute en plusieurs étapes. La plus saillante et définitive à mes yeux étant le gouvernement Jospin, les années 97-2002, en particulier symbolisé entre autres avec plusieurs mouvements de basculement interne, une chronologie plus fine qu'on pourrait faire. Mais par exemple, un point à mes yeux évidemment très, très symbolique, très fondamental, le discours à la presse de janvier 1999, de Lionel Jospin, qui est le discours fameux pour ceux qui s'intéressent à ces questions, dans lequel il dit, reprenant à son compte l'argument classique de ses opposants, « Il faut cesser de parler des problèmes urbains, économiques et sociaux, car cela risque de donner des excuses aux délinquants. » Ceci est précisément le point de bascule, la pensée sécuritaire consistant, comme je le disais en introduction, en une négation du social. C'est la première chose qu'il fallait rappeler très rapidement. La deuxième, c'est que dans cette surenchère, les tenants de la pensée sécuritaire, qui se frottent les mains donc depuis quelques années, ont pu donner libre cours à la première stratégie, la stratégie du discours, la stratégie verbale, qui est une stratégie de dramatisation continue. Ils reçoivent ici, disons-le pour ne plus l'évoquer par la suite, ils reçoivent ici, bien entendu, le concours des médias. Qui ne demande que ça, à illustrer ces questions posées en priorité de l'agenda politique à travers le bassin inépuisable des faits divers. Inépuisable, inépuisé, et en oubliant toujours ce phénomène pourtant tout à fait évident, hein, cette caractérisation du fait que c'est inépuisable. Il suffit de donner un petit exemple pour illustrer cela. Il y a en France à peu près chaque année, dans la période contemporaine, 2000 personnes qui s'entretuent, disons, homicide, tentative d'homicide. Et il y a 365 jours dans l'année. N'est-ce pas, potentiellement, nous avons donc 4 meurtres et demi en moyenne, on va dire, hein, qui peuvent faire l'objet de commentaires au journal télévisé de 20h tous les soirs. Et pourtant, à certaines époques, on n'en entend jamais parler, et à d'autres époques, les 4,5 font l'objet chacun d'une brève, etc. Bon. C'est ce phénomène qu'il faut toujours rappeler pour bien dire qu'il n'y a pas de connexion et de corrélation entre l'intensité médiatique d'une question et son intensité réelle dans la société, mais il y a un certain nombre de choix d'organisation et de choix politiques qui président à l'énoncé des priorités dans le traitement médiatique d'une question. Cela étant, il serait trop facile de dire, ouvrez les guillemets, c'est la faute aux médias. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de reprocher aux journalistes de ne pas organiser un débat contradictoire lorsque celui-ci a disparu du discours politique. Pourquoi ce seraient les journalistes, dans les conditions de travail, c'est-à-dire d'urgence absolue, qui sont les leurs, qui seraient chargés d'organiser un débat intellectuel lorsqu'il n'existe plus ailleurs? Évidemment que non. Donc ceci ne règle pas la question. Surenchère, donc, illustrons là rapidement, mais les exemples seraient vraiment très nombreux. Certains ont été évoqués à travers la rétention de sûreté et la figure du fou criminel. Un mot ici sur un autre domaine que je connais un petit peu mieux, qui est celui de la délinquance des mineurs. On pourrait très facilement détailler les discours à l'Assemblée nationale et au Sénat de Nicolas Sarkozy présentant la dernière loi qu'il a fait voter comme ministre de l'Intérieur, la loi dite prévention de la délinquance, en mars 2007, comparé avec le discours de Rachida Dati lorsqu'elle met en place la commission Varinard, et on trouverait les mêmes rhétoriques dont il faut très clairement dire, et sans crainte aucune d'être poursuivi où que ce soit, car plus la chose sera publique, mieux ce sera, on peut clairement dire que le discours déforme la réalité jusqu'à aller au mensonge, M-E-N-S-O-N-G-E, et jusqu'à inventer la réalité lorsqu'elle n'existe pas pour appuyer le discours. Ceci a été montré, publié et relevé par les extrêmement rares journalistes qui peuvent de temps en temps tenter de vérifier les propos en question. Stratégie de la dramatisation, c'était le deuxième point. Troisième point, stratégie législative et juridique de la criminalisation. Une criminalisation tout azimut, donc en d'autres termes, une surenchère dans l'incrimination. C'est la frénésie pénale. Je renvoie ici à nouveau au chapitre de Christine Lazerge et Jean Danet dans le livre concerné et aux excellents articles parallèles dans la revue de sciences criminelles, bien entendu.
Et la page de publicité.
Dont ça a été déjà dit à plusieurs reprises, je me contente d'enfoncer le clou et d'élargir, dont quand même cette surenchère va et cette frénésie pénale va aujourd'hui jusqu'à mettre en cause non pas un, mais deux, mais trois, mais toute une série de principes généraux du droit. Et il faut vous rappeler aussi cette chose simple, a fortiori vue de l'extérieur par un non-juriste, qui est que les principes généraux du droit sont le fondement de l'état de droit, donc de la démocratie. Donc quelque chose qui nous concerne absolument tous et directement. Il en a été beaucoup question à travers la loi sur la rétention de sûreté, mais beaucoup plus largement. Ce sont l'ensemble des aspects de cette frénésie pénale qui remettent en cause beaucoup de principes généraux du droit, qui incluent ceux du procès des droits de la défense, qui incluent notamment, mais pas seulement pour les mineurs, ceux de le principe fondateur de l'individualisation de la peine, qui inclut bien sûr la distinction des majeurs et des mineurs, etc., etc. Quatrième point sur les cinq, ce retour triomphal de la pensée sécuritaire depuis presque une vingtaine d'années maintenant, peut être également caractérisé comme le fait que le maintien de l'ordre devient, sous sa version marketing moderne, gestion du risque, devient en réalité la doctrine centrale imposée à tous les acteurs professionnels, jusqu'à, là aussi, mettre en péril les valeurs et les savoir-faire qui fondent les métiers concernés. Je ne peux là que faire une liste extrêmement, extrêmement sommaire, mais signalons la mise en péril des valeurs et des savoir-faire qui fondent le métier de juge des enfants, bien entendu, le métier de juge des enfants, mais également les métiers du secteur médical et médico-psychologique dans son domaine-là, ramener aussi à un impératif de contention et de maintien de l'ordre. Signalons l'espèce de révolution idéologique que l'on tente d'imposer aux travailleurs sociaux, par exemple dans les services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, puisque la révolution en question est celle qui consiste à faire passer la clé de leur doctrine professionnelle de l'idée de réinsertion des détenus à celle de prévention de la récidive, bien entendu. Signalons les mêmes évolutions concernant les éducateurs, de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur habilité, dont en prenant deux exemples pour illustrer ça rapidement, et qui illustrent, je crois, ce que j'ai caractérisé, en tout cas pour ma part, comme une inversion entre la fin et les moyens, hein, entre la contention et le travail éducatif. On peut l'illustrer à travers la philosophie qui préside à la création, qui a présidé en 2004 à la création des centres éducatifs fermés, hein, où on voit très clairement se jouer cette inversion entre une finalité qui est la contention et un contenu éducatif. On voit bien à travers l'investissement, y compris budgétaire, qui est mis sur les nouveaux établissements pour mineurs également, se jouer ce phénomène-là. Et chose qu'on oublie généralement de rappeler, mais qui est tout à fait fondamentale, qui est que cette administration travaillant à budget constant, le surinvestissement de moyens qu'on va mettre pour le contenu éducatif dans les structures à finalité de contention se fait au détriment de l'action en milieu ouvert. Signalons enfin, pour aller très très vite, le même caractère, phénomène d'univocité, hein, de cette doctrine du maintien de l'ordre, la façon dont elle également réduit et s'impose ou devient l'unique doctrine et l'unique pratique concernant les forces de police et de gendarmerie elles-mêmes. Hein, et rappelons ici que l'un des aspects de ce retour triomphant de la pensée sécuritaire a été l'enterrement de la police de proximité et de tout ce qui peut, de près ou de loin, dans la doctrine, pas dans les intitulés administratifs, hein, mais ressembler à cela, hein, à la proximité. Et signalons de surcroît cette ruse de l'histoire et ce drame de l'histoire qui est que le modèle français de proximité, en réalité très ancien, ne se situait pas à l'étranger mais en France même, hein, c'était celui de la gendarmerie nationale et de son modèle de surveillance générale, le drame ou la ruse de l'histoire étant que ce soit la gendarmerie qui, loin d'inspirer la police nationale, finit par au contraire s'aligner sur elle. Enfin, cinquième caractéristique, hein, pour cette période, c'est ce qu'on peut appeler la tendance orwellienne, à savoir le retour du fantasme de l'identification et du fichage de la population, dont on voit très bien là aussi comment, évidemment, toujours sous couvert d'exceptions qui cachent malheureusement quelques règles ou tentatives de règles, derrière la figure du pédophile, etc., en réalité, l'idée de fichage se banalise et se développe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le plus gros des fichiers, qui est le fichier STIC de la police nationale, on approche maintenant les 10% de la population française. 10% de la population française. On est bien loin de l'exception. Même chose pour cette autre caractéristique tout à fait étonnante lorsqu'on y réfléchit avec un petit peu de distance de la période actuelle, qui est le succès politique, le succès médiatique et le succès pratique sur le terrain au niveau de toutes les collectivités territoriales de cette nouvelle prétendue solution miracle à la délinquance qu'est la vidéosurveillance, qui se trouve avalisée par les pouvoirs publics sans évaluation, voire au détriment des rares évaluations en France et en méconnaissance des évaluations réalisé à l'étranger depuis bien longtemps, qui se trouve quasiment vendu aux collectivités territoriales par les représentants locaux de l'État, préfets, lors même que ces évaluations mettent largement en cause, on va dire, pour rester très modéré dans le propos, les résultats en termes dissuasifs et préventifs de la vidéosurveillance dans l'espace public. Le comble étant sans doute atteint lorsque, et on l'a encore vu au cours de ce mois de mai 2009, la proposition émerge de développer la surveillance publique jusqu'à l'intérieur des écoles. On achève là une autre caractérisation, hein, de certaines des tendances actuelles qui ont déjà été qualifiées tout à l'heure, déshumanisées, c'est également le mot que j'emploie pour ma part, déshumanisation. Et on est ici également tout à fait dans l'exemplification de cette abdication de toute forme d'analyse du social, en quoi, une fois de plus, consiste la pensée sécuritaire. Alors, pour conclure et tenir exactement l'horaire que vous m'avez fixé, quelques petits signes que peut-être, néanmoins, quelques résistances, oppositions se font jour ici ou là, ces dernières années. J'entends par là, à côté des résistances traditionnellement opérées par certains acteurs professionnels, syndiqués, dans et autour des professions de justice, on va dire. Quelques exemples, je me contente d'une liste tout à fait non exhaustive, mais pour signaler quelques manifestations qui me semblent intéressantes de ce point de vue. J'évoquais tout à l'heure le rapport de l'INSERM en 2005 sur les troubles des conduites, pour signaler donc ici la réaction du collectif qui s'était constitué à cette occasion-là, intitulé « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans », qui a fédéré des pans entiers du secteur médical et médico-psychologique. Dans le même ordre et partant des mêmes professions, d'ailleurs, le collectif autour de la nuit sécuritaire, intéressant aussi, qui a émergé depuis quelques mois, signalant aussi parmi les multiples groupes qui travaillent autour de la délinquance des mineurs, le dernier collectif en date, celui qui s'est constitué autour d'une pétition « Quel futur pour les jeunes délinquants ?». Dans un autre ordre d'idées, celui-ci interne au champ universitaire et scientifique, je signalerai la résistance qui s'est manifestée face au développement d'une criminologie d'État, incarnée par Alain Bauer, le leader de l'Observatoire national de la délinquance, titulaire, vous le savez, de la première chaire de criminologie en France, au CNAM, et qui tente actuellement de lancer un dictionnaire de criminologie aux presses universitaires de France. On pourrait situer encore d'autres manifestations, des groupes, des pétitions, des think tanks, etc. Je terminerai simplement en évoquant et en mettant, si vous me permettez, dans la liste de ces manifestations, le colloque qui nous réunit aujourd'hui. Merci. Merci.